Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Reprendre ensemble le chemin d'une vie nouvelle, c'est ce que propose l'accueil Louis et Zélie, association nationale dont l'antenne de Toulouse fête ses 3 ans. D'autres antennes existent aussi dans notre région, à Tarbes, Lourdes et Argelès-Gazost, et bientôt à Auch et Béziers. Nous découvrons ce matin cette association qui permet de parler en confiance et de résoudre ainsi bien des difficultés. Pour nous présenter l'accueil Louis et Zélie et témoigner de ce qui s'y vit, je reçois aujourd'hui Danielle Ayoub, responsable des accueils de Toulouse et écoutante. Bonjour madame.
Bonjour Isabelle, et merci de nous recevoir.
Avec joie. À vos côtés, Claude Colomès. Bonjour madame.
Bonjour, merci d'être là, de nous avoir invités.
Merci aussi à vous d'être venue. Vous êtes thérapeute et formatrice agréée par les accueils pour former les écoutants.
Absolument.
Et enfin, entre vous deux, Chantal Thomas, bonjour.
Bonjour.
Vous avez bénéficié de l'écoute offerte par l'accueil Louis et Zélie. Merci pour votre témoignage sur Radio Présence aujourd'hui.
Avec plaisir.
Je vis une épreuve, j'ai besoin d'aide, lit-on sur la page d'accueil de l'association Louis et Zélie. À quelle situation l'écoute offerte vient-elle répondre, Danielle Ayoub?
L'écoute répond à tous les besoins que peuvent avoir une personne. Ça peut être des problèmes conjugaux, des problèmes familiaux entre parents-enfants, grands-parents, petits-enfants, fratrie. Ça peut être des conflits de travail, des difficultés sentimentales, des addictions diverses comme l'alcool, la drogue, les écrans, la pornographie. Ou alors des problèmes de solitude ou des problèmes de tout simplement de sens à trouver à sa vie.
Mmh. Oui, donc c'est un panel très large.
Très large, oui.
De difficultés.
Très large. Et en fait, l'action des accueils s'inspire du fait qu'on est persuadé que toute personne qui comprend les difficultés qu'elle traverse est à même de trouver elle-même la solution. Et nous, on est juste là pour l'aider dans cette démarche.
À faire accoucher, finalement, cette solution.
Exactement.
Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous auriez quelques exemples à nous donner de personnes que vous avez accompagnées et pour illustrer ces différentes difficultés?
Oui. Je vais vous parler d'une personne qui était... Alors, par exemple, je vais vous présenter des cas très différents. Par exemple, une personne qui est venue nous voir, elle était en instance de divorce, elle était suivie par un thérapeute, et elle voulait simplement savoir quelle était la position de l'Église par rapport au divorce, par rapport aux divorcés remariés, par rapport aux nullités de mariage. Donc, en fait, c'était des questions très simples, et une seule réunion, une seule rencontre a suffi pour répondre à sa demande. On a eu aussi, par exemple, un jeune qui était en burn-out. Il avait fait un burn-out, il était en arrêt maladie. Et quand il est venu nous voir, ben, il n'avait goût à rien. Il ne faisait rien. Il ne faisait même pas ses papiers pour faire valoir ses droits. Donc, il vivait sur ses réserves qui s'amenuisaient. Il était vraiment dans une situation très difficile. Nous l'avons rencontré... une séance, et à ce moment-là on a fait le point avec lui, on l'a laissé déjà exprimer sa souffrance, exprimer ce qu'il ressentait, faire le point de d'où venaient ses difficultés, en même temps découvrir ses qualités, les dons qu'il avait. Et il était évident qu'il fallait absolument qu'il change de métier. En fait, il aimait son métier, mais c'était absolument pas un métier qui était fait pour lui, pour sa façon de fonctionner, pour sa psychologie. On a terminé la séance avec 2 engagements. Un, qu'il refasse ses papiers, qu'il se remette à jour dans ses papiers. Et la deuxième, qui commence s'inscrire à France Travail et commencer une recherche sur un travail différent.
Avec un bilan de compétences, alors, c'est ça?
Un peu, oui. Mm-hmm. Et par la suite, nous étions convenus de l'appeler. On l'a appelé et rien n'avait changé.
Ah.
Alors, on lui a assuré qu'on pouvait faire les démarches avec lui, qu'on le suivrait, qu'on irait avec lui dans les administrations. Enfin, et il a refusé. Il nous a dit « Non, non, je vais le faire ». On a repris notre rendez-vous téléphonique. Et au rendez-vous suivant, ben, rien n'avait changé non plus. Alors là, on a insisté un peu plus en lui dit, en l'assurant qu'on était avec lui et que... Bon. Alors il nous a dit que les démarches, il les ferait tout seul. Et le soir, on a reçu un petit texto en disant « Ça y est, je me suis inscrit, je régularise mes papiers ». Voilà.
Il lui fallait du temps.
Donc pour lui, c'était une rencontre et puis deux coups de fil, en fait. Voilà. Et il a trouvé lui-même la solution et c'est lui qui a fait la démarche. Et quelques temps après, par une connaissance commune, il nous a fait savoir qu'il avait fait une formation, qu'il avait trouvé un métier différent et qu'il était heureux dans sa, voilà, dans sa situation. Donc pour lui, ça a été assez radical.
Ah oui,
voilà.
Assez positif. Ouais,
assez
en tout
positif.
Cas.
Ouais. Un peu de rencontres, en fait. On a eu une autre personne qui est venue pour des angoisses inexpliquées et récurrentes. Et là, il y a eu peut-être 2-3 rencontres. Et puis cette personne, finalement, en refaisant son parcours de vie, nous a parlé d'un avortement qui, finalement, lui pesait. Mais le fait de parler de ça sans être jugée, ça l'a réconciliée avec elle-même. Et en même temps, elle s'est rendue compte que si, au moment de sa grossesse, elle avait... était, son angoisse et ses soucis avaient été vraiment pris en compte, elle n'aurait pas fait ce choix. Mais le fait de ne pas être jugée, le fait d'étudier, de parler de son cas, ça lui a permis déjà de se réconcilier avec elle-même. Et comme elle était chrétienne, nous lui avons conseillé, nous lui avons suggéré de rencontrer un prêtre dont on lui a donné les coordonnées, ce qu'elle a fait. Et là, à ce moment-là, sa joie est revenue. En fait, pour les personnes, ce qui est il faut qu'il y ait une guérison psychique, mais en même temps une guérison spirituelle. Et à ce moment-là, la joie revient, l'espérance revient. Voilà. C'est pas toujours possible parce qu'on peut recevoir des personnes qui sont pas croyantes. Complètement athée, à ce moment-là, on ne parle pas de l'aspect religieux. Oui. Mais quand la personne est croyante, on en parle. Et donc, pour cette personne-là, il y a eu ce qu'on appelle l'écoute et ce qu'on appelle l'accompagnement, c'est-à-dire orienter vers des professionnels ou des spécialistes quand le sujet nous dépasse.
Oui, parce que justement, c'était la question que je voulais vous poser. C'est cet accueil, Louis et Zélie, ne se fait pas au détriment d'un accompagnement par un professionnel.
Absolument.
Pour ce jeune homme qui était en burn-out, il était certainement suivi par un médecin.
Oui, il était suivi puisqu'il était en arrêt maladie.
Voilà, c'est
oui.
ça. Oui, oui, oui. Oui. Quelles sont les personnes accueillies?
Alors, les personnes accueillies, c'est toutes les personnes qui ont des difficultés, et qu'elles soient croyantes ou non croyantes, ou d'une autre religion. Il n'y a aucun problème. Du moment qu'une personne a besoin de parler, a une difficulté à évoquer ou quelque chose qui l'empêche d'avancer, un caillou dans la chaussure, quoi. C'est en quelque sorte. On les accueille.
Donc là, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de
oui.
question de religion ou pas. Nous le verrons, les écoutants sont catholiques, sont chrétiens,
oui.
Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'écoutent que des chrétiens.
Tout à fait.
C'est ça.
Tout à fait. De toute façon, la compassion et l'empathie,
elle est pour tous.
Elle est pour tout le monde. Elle est pour tout le monde. Le Christ, quand il était parmi nous, on le voit souvent dans les évangiles, il regarde les personnes et il a pitié d'eux. Quelles que soient les personnes qui étaient devant lui. Et nous, c'est absolument pareil.
Oui, c'est ça.
Peu importe l'état ou la façon de vivre de la personne.
Oui, c'est ça, et sa situation. Chantal Thomas, vous avez bénéficié de l'accueil et de l'écoute de l'accueil Louis et Zélie. Comment avez-vous été accueillie?
Très, très bien.
Très, très bien.
En fait, moi, j'avais connu donc Louis et cette association par votre première émission radio. Et je me souviens que c'était un matin où je me sentais très mal. Et depuis quelque temps, d'ailleurs, je me sentais très mal. Et j'ouvre la radio et j'entends cette émission et j'entends Daniel surtout parler. Et je me dis, c'est ça, il faut que je fasse le premier pas. Il faut que j'aille vers cet accueil pour être écoutée, pour être entendue, parce que je garde trop pour moi tout ce qui me pèse, tout, voilà. Et donc après, j'ai pris contact, je pense par mail, en fait, voilà. Et on m'a donné un rendez-vous et j'ai pu être accueillie et tout s'est super bien passé. J'ai craqué la première fois et je pense que ça m'a fait du bien. Mais je trouve que Daniel résume très très bien en fait ce qui se passe. Au niveau de l'association, on n'est pas du tout jugé. On nous entend. Il y a beaucoup de compassion qu'on ressent vraiment à la première rencontre. Et c'est très apaisant parce que moi, je me suis réconciliée un petit peu avec ce mal-être parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai bien compris effectivement qu'il fallait que je me fasse aider aussi. Et donc, on a bien réfléchi, si vous voulez, aux solutions que je pourrais envisager. Et c'est moi qui ai toujours fait les démarches pour rencontrer après les thérapeutes qui étaient nécessaires. Quoi. Mmh.
Vous n'aviez jamais eu l'occasion finalement de déposer vos inquiétudes, vos angoisses?
Si, auprès de psychologues, hein, ou même d'un psychiatre, mais il y a très très longtemps en fait. Et là, bon, c'était une angoisse qui était revenue et qui était très récurrente. Et donc là, je me disais, bon, je vais essayer cette association parce que je ne connaissais pas, en fait. Et je trouve que ce n'est pas la même écoute, en fait, parce qu'on réfléchit ensemble, comment dire, à ce qu'il y a de mieux, quoi, enfin, pour nous. Et surtout, je me sentais moins jugée que peut-être avec une psy ou voilà.
Vous êtes vous-même croyante, vous êtes catholique?
Oui, mais je me suis intéressée aussi à la philosophie bouddhiste. Ça n'empêche pas d'avoir, je veux dire... comment dire, une vision de philosophie, vous voyez, complémentaire, quoi. Mm-hmm.
Et voilà. Le fait que vous ayez été écoutée par des personnes chrétiennes, est-ce que ça a fait un écho en vous?
Oui, parce qu'on retrouve de toute manière cette compassion et cette écoute, hein, de toute manière, dans cette religion aussi. Mais j'aime pas parler de religion, c'est plus pour moi un état quoi de fonctionnement ou d'être, voilà. Mmh.
Vous avez dit, Chantal Thomas, que vous aviez trouvé des solutions et vous étiez allé voir des personnes, des thérapeutes pour vous aider. Quels ont été les fruits de cet accompagnement?
Ben, de trouver surtout les solutions.
Ouais, c'est ça.
Que je n'arrivais pas à trouver seule parce que je ruminais et je retournais toujours les mêmes choses quoi, dans ma tête. Et en fait, ben, j'ai eu des portes de sortie et ça m'a amené à une amélioration quoi, en fait, de mon état. Voilà. Et surtout, ce que j'ai compris par rapport à l'association, c'est que vraiment, il ne faut pas rester seul quoi, en fait, avec nos ruminations, avec nos angoisses. Il faut vraiment sortir, il faut vraiment passer le pas et le cap d'appeler et de se faire aider et tout en étant écouté.
Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Alors, vous avez, on va parler du déroulement de l'accueil à Louis Ezeli. Donc, vous avez pris contact, vous l'avez dit, par mail.
Oui.
Et puis après, comment ça se passe? Et puis, Daniel, vous allez compléter sur les aspects pratiques.
Oui. Hein? Ben, disons qu'après, j'ai eu un coup de fil donc, de l'association qui m'a proposé donc, un rendez-vous. Et donc, j'ai choisi un rendez-vous en présentiel parce que c'était important pour moi de rencontrer la personne. Et voilà.
Et ça s'est passé où, ce rendez-vous?
Sur la commune de Balma, en fait.
D'accord. Mais c'était un lieu neutre, c'était pas chez vous?
Oui, c'était au presbytère, en fait, hein, de l'église.
Hein. D'accord.
Voilà.
Et puis après, vous avez eu donc cette première rencontre. Et puis après, comment ça s'est passé?
Voilà.
Ensuite,
bon, comme je sentais qu'il fallait que je revienne... Je suis revenue, je pense, deux ou trois fois. Et puis après, bon, j'ai pas senti de revenir de suite après. Et depuis, c'est vrai que je suis pas trop revenue. Voilà.
Daniel Ayoub, quand vous recevez une demande comme ça, par mail ou par coup de fil, par téléphone, quel est votre travail? Est-ce que vous devez choisir après la bonne personne, le bon écoutant? En fonction de la problématique et des difficultés qui ont été annoncées par la personne? Ou est-ce que vous l'envoyez déjà vers une première personne écoutante?
Alors, lorsqu'on reçoit un coup de fil ou un mail, je prends contact avec tous les écoutants, en donnant très simplement la problématique. Est-ce que c'est un problème de jeune drogué, par exemple, ou est-ce que c'est une personne âgée isolée, voilà. Et l'écoutant qui sent que c'est vraiment un sujet qu'il va pouvoir aborder se manifeste. Et on met directement en contact à ce moment-là l'écoutant et l'écouté. Et ils s'entendent sur le lieu et sur l'heure au plus pratique pour chacun. Mm-hmm. Là, tout à l'heure, on a parlé du presbytère de Balma. Ça peut être dans d'autres presbytères, puisqu'il y a pas mal de prêtres qui nous accueillent pour des écoutes. Mais ça peut être dans des lieux totalement neutres. Ça peut être aussi bien dans un café tranquille, un peu reculé, autour d'un café.
Mm-hmm. Dans un jardin aussi,
pourquoi
pas.
Dans un jardin. C'est vraiment l'écoutante et la personne qui va être écoutée qui vont décider ensemble du lieu et de l'heure.
Mmh. Un lieu dans lequel il faut se sentir bien, j'imagine.
Exactement.
Aussi, quand on est écouté.
Oui, oui. Ouais. Bien et tranquille pour... Après, on peut faire une écoute en vidéo, une écoute par téléphone. Actuellement, on a une personne qui est d'Albi, donc qui n'est pas sur place, avec qui on a une écoute. Sachant que cette personne a beaucoup de mal à se livrer. Donc, on prend le temps, autant de fois qu'il faudra pour l'aider petit à petit à avancer. Voilà. Et c'est par téléphone. Bon, personnellement, je préfère en présentiel parce que lorsqu'il y a un silence, on n'a pas la vue, donc on ne sait pas s'il y a des larmes qui sont en train de naître dans les yeux.
Oui, le corps parle.
Voilà,
aussi,
le corps parle. Donc on en tient compte. On peut laisser du temps à la personne pour laisser monter ses émotions. Par téléphone, c'est un peu plus difficile. Voilà. Ouais. Mais on prend les personnes soit en vidéo, en présentiel ou par téléphone, si elles ne peuvent pas se déplacer.
Vous dites qu'il y a autant de séances que nécessaire, mais néanmoins, j'imagine que vous ne pouvez pas accompagner une personne pendant 3 ans, par exemple.
On a juste... Normalement, les accueils se limitent à 10 rencontres.
Ce qui est déjà bien.
Ce qui est déjà pas mal. Au-delà de 10 rencontres... c'est que l'accueil ne répond pas vraiment aux besoins de la personne. Parce que le but n'est pas de garder les personnes avec nous. Le but, c'est que de les aider à vivre leur vie. On ne doit pas rester avec les personnes. Ce qui n'empêche qu'on peut avoir après des contacts amicaux. Ça, c'est tout à fait de notre ordre. Mais les écoutes doivent se limiter à 10 personnes. On a eu récemment... 10 séances, pardon. On a eu une personne qui a présenté ses difficultés. L'écoutante lui a compris que les difficultés dépassaient le cadre d'un accueil et lui a proposé éventuellement de rencontrer un psychiatre pour l'aider un peu plus. Et la personne a refusé. Elle a refusé. C'est totalement dans son droit. Mais après, elle s'est rendue compte que les rencontres, c'était juste le plaisir de discuter. Donc, c'est pas le but. Donc, au bout des 10 rencontres, ils ont arrêté l'accompagnement.
Oui. Enfin, en tout cas, l'écoute. À la fin de l'accompagnement, est-ce qu'il y a un rituel ou un bilan qui est présenté? Comment ça se passe?
Non, pas forcément un bilan. Si la personne est croyante, à la fin de chaque temps d'accompagnement, on peut prier ensemble, remercier le Seigneur pour les grâces qu'on a reçues. Parce que là, j'en ai pas parlé, mais pendant que une personne est reçue, tous les écoutants, les personnes de la fraternité que nous formons prient pour l'écoutant et l'écouter. Et demande au Seigneur d'intervenir et d'aider les personnes en contact. Parce qu'une rencontre dans un accueil, c'est 3 personnes. C'est l'écouter, l'écoutant et le Seigneur. Même si la personne n'est pas croyante. Mais les personnes prient quand même, toute l'équipe prie pour la personne.
Oui, et ça, c'est important, effectivement, d'avoir ce secours de l'Esprit Saint pour... pour que la parole puisse être oui. bien dite et écoutée mm-hmm. aussi, surtout.
Oui. Ouais.
Ah, ouais. Nous allons parler dans notre deuxième partie d'émission de toute la posture de l'écoutant. Qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit être pour permettre à la personne accueillie de se livrer et d'avancer, de trouver, comme vous le disiez, les solutions. Je vous propose de nous arrêter quelques instants et nous écoutons J'espère en silence, interprété par les Dei Amouri Cantores, et nous nous retrouvons Daniel Ayoub, Claude Colomès et Chantal Thomas juste après cela.
Isabelle Duché.
L'accueil Louis et Zélie Martin propose une écoute inconditionnelle pour reprendre ensemble le chemin d'une vie nouvelle. Pour témoigner de son action, Daniel Ayoub, responsable des accueils de Toulouse et écoutante, Claude Colomès, thérapeute et formatrice à l'écoute, et Chantal Thomas, qui a bénéficié de l'écoute offerte par l'accueil Louis et Zélie, et qui a donné son témoignage en première partie de cette émission. La posture de l'écoutant est essentielle. Claude Colomès, comment celle-ci permet-elle à la personne accueillie de trouver une solution?
Alors, la formation qu'on dispense dans les accueils Louis et Zélie, c'est une formation très particulière. L'accompagnement se fait à base de questionnement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun conseil, aucune orientation, aucun jugement, bien sûr, ça on l'a déjà dit en première partie. C'est vraiment des questionnements ça s'appelle des pointeurs de précision. C'est une technique très très particulière qui permet à l'écoutant de se reculer avec ses convictions, avec ses croyances, avec son point de vue, sa façon de voir les choses. Ça ne doit pas avoir d'importance dans notre accompagnement. Ça veut dire que nous devons nous reculer déjà pour laisser passer l'Esprit Saint, parce que les desseins de Dieu ne sont pas forcément les nôtres. Donc, un peu, je dirais, pour qui on se prend de savoir, nous, ce qui est bon pour nous, pour l'autre. On ne sait pas. Donc, l'idéal, c'est vraiment pour les accompagnants, de rester bien dans le cadre du questionnement. C'est un questionnement très très précis. J'en ai un petit peu parlé lors d'une émission.
Peut renvoyer nos auditeurs à cette émission, voilà. Sur l'écoute. Je voudrais que vous nous donniez, si on reprend le témoignage de Chantal Thomas, dans une situation d'angoisse, quelles sont les questions, puisque vous dites que c'est très codé, c'est très cadré,
oui.
Quelles sont les questions qui peuvent être posées à une personne dans cette situation?
Eh bien, en fait, on part, je ne peux pas vous dire comme ça quelles vont être les questions, parce qu'on va partir de ce que dit la personne. On va reprendre les mots, les termes, les expressions, et on va interroger qu'est-ce que ça veut dire. Quelqu'un qui nous dit, par exemple, « je vis une forte angoisse », on va lui demander quelle angoisse, précisez votre angoisse. Et la personne va rentrer dedans. Elle va nous dire, par exemple, j'ai peur de finir seule. C'est quoi pour vous la solitude? Et la personne va rentrer dans qu'est-ce que c'est. Et plus la personne va rentrer dans sa problématique, plus elle va trouver la sortie. Dans mes formations, je dis que quand quelqu'un est en train de se noyer, alors ça, c'est peut-être un peu inentendable ce que je vais dire, mais quand quelqu'un est en train de se noyer, soit on lui donne une bouée, on lui permet de nager, soit on lui fait boire la tasse et elle va remonter elle-même à la surface. Alors, c'est pas très chrétien ce que je dis, parce que je sais qu'on a tendance à dire il faut aider les gens, les sortir, mais je pense que la personne, si elle veut trouver sa solution, il faut vraiment qu'elle ait l'impression de se noyer. Or, souvent, les personnes, quand elles viennent nous voir, elles sont entre deux. Elles ne sont pas complètement noyées, mais elles boivent quand même la tasse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Soit on les console facilement, je veux dire, on les console parce que ça nous fait du bien aussi de consoler, soit on les laisse entrer dans leur problématique jusqu'à ce qu'elles deviennent insupportables. Et c'est quand ça devient insupportable qu'on bouge. Je ne sais pas si ça parle à nos auditeurs ou si ça parle aux personnes qui sont présentes, mais souvent c'est quand on va jusqu'au bout du problème, quand ça devient vraiment étouffant, insupportable, qu'on en sort. Parce que tant qu'on est entre deux eaux comme ça, on boit la tasse mais on ne se noie pas, je pense qu'il faut mettre la tête sous l'eau, il faut rentrer dedans. Et notre questionnement, nos questionnements qui amènent la personne à s'enfoncer dans son problème, va lui permettre de trouver une issue parce qu'elle n'en peut plus, elle est au bout de son système. Souvent, les gens qui viennent nous voir, ils sont bien enfoncés dans leurs problèmes, mais pas assez pour donner le coup de pied au fond de la piscine pour en sortir. Voilà.
Ça implique quand même une certaine violence. Enfin, c'est assez fort quand même dans vos questionnements.
Oui, et en même temps, les gens nous en remercient après, parce que c'est vraiment en les faisant pénétrer dans cette problématique qu'elles vont en sortir. Les mi-teintes comme ça, ça n'a jamais amené vraiment de solution.
Oui, parce que sinon, on pourrait se dire... Quand on est une personne accueillie, on peut se dire, bon, j'ai cette situation, elle m'angoisse, elle me met mal à l'aise ou elle me rend malheureux, mais finalement, j'arrive à vivre avec.
C'est ça. C'est un petit peu, j'ai un caillou dans la chaussure, je vais me mettre une posture qui va me permettre d'avoir moins mal, mais on ne règle pas le problème. Ouais. Alors que quand le caillou, il fait vraiment mal dans la chaussure et qu'on boite, là, on dit, maintenant, il faut faire quelque chose. Et donc là, la personne, elle va avancer. C'est le petit coup d'aiguillon qui va faire qu'elle avance. Alors, est-ce que c'est violent, le coup d'aiguillon? Peut-être, mais c'est salvateur.
Chantal Thomas, je vous vois beaucoup acquiescer.
Oui, c'est exactement ça. C'est vrai qu'il faut qu'on arrive vraiment à tomber vraiment au fond du trou pour avoir l'impulsion de vouloir remonter, parce que c'est insupportable, à un moment donné.
Ouais. Voilà. Qui sont les écoutants et qu'est-ce qui les anime? Daniel Ayoub, vous voulez répondre?
Alors, les écoutants, ça peut être des personnes qui peuvent être thérapeutes, mais pas que. C'est avant tout des personnes de bonne volonté, des personnes qui sentent au fond d'elles-mêmes qu'elles ont vraiment envie d'aider les autres. C'est fondamental. Après, ça peut être des mères de famille, ça peut être des grands-mères, ça peut être des personnes en activité, mais qui ont quand même un petit peu de temps à consacrer, parce que quand on accueille quelqu'un, ça peut prendre du temps. Et il faut, dès le départ, il faut savoir qu'on va consacrer du temps
Et très concrètement, ça peut être quoi? 2 heures par semaine pour une personne
qu'on
accompagne?
C'est très variable. Ça dépend de la personne écoutée, si elle a besoin d'être rencontrée toutes les semaines. Pour certaines, ça peut être tous les 15 jours. Pour d'autres personnes, ça peut être une fois par mois. Et à ce moment-là, l'accueil est assez long, puisque ça peut aller jusqu'à 10 fois. C'est variable, en fait.
Vous avez parlé de mère, de grand-mère, de thérapeute. Il peut y avoir des hommes aussi qui peuvent écouter.
Bien sûr. Nous avons 2 hommes dans notre équipe et nous en sommes ravis. C'est vrai que les hommes, nous en avons un petit peu moins, parce que souvent, ils travaillent et ils ont des métiers assez contraignants, alors que les femmes peuvent être un petit peu plus disponibles. Mais oui, c'est très important. C'est important d'avoir des hommes aussi, parce que parfois, quand on trouve des jeunes accros au porno, ils auront plus facilement, plus de facilité à parler, à se confier à un homme, qui le comprendra mieux qu'à une femme. Voilà.
Donc, parmi les bénévoles qui écoutent dans l'accueil Louis et Zélie, qu'est-ce qui les anime? Parce que bon, c'est pas tout de se dire je vais aller aider les personnes en difficulté. Et profondément, est-ce que vous pourriez répondre, Claude Colomès?
Je ne sais pas. Nous avons eu beaucoup d'appels, enfin quelques appels suite à l'émission que nous avons enregistrée ici. Des personnes ont entendu l'émission et elles ont senti en elles, mais oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et comme une espèce d'appel, de mission, la personne s'est sentie investie d'un désir. Oui, c'est ça que je veux faire. Et c'est ce qu'elles nous ont dit, les dernières personnes qui ont intégré le groupe des accueillants, nous ont dit, voilà, il y en a eu deux, je crois, qui ont entendu l'émission et qui ont dit, j'ai été touchée. Ça ne s'explique pas vraiment. Je pense que les accueillants ont l'impression que le Seigneur les a appelés, quoi, que ça a été plus fort qu'elles. C'est là que ça se passe pour moi. Ça ne s'explique pas tellement, ce genre d'appel.
Non, c'est vrai. Pour vous, par exemple, Daniel Ayoub,
Moi, c'est un petit peu particulier parce que, en fait, on était sur la paroisse de Malma, on avait une réflexion sur Laudato Si, donc sur la protection de notre patrimoine. Et c'était en plein. Le Covid s'est invité au milieu. Je me suis rendu compte en appelant des personnes qui étaient isolées ou pas, qu'il y avait énormément d'angoisse. Et que les gens étaient complètement sans boussole, certains désespérés, que les conflits familiaux s'agrandissaient dans les familles, souvent du fait du confinement. Et donc, à la sortie du confinement, j'ai contacté Claude, qui m'avait parlé des accueils avant, mais ça m'avait laissé un peu... J'ai trouvé ça intéressant, mais je ne me sentais pas impliquée. Et donc, j'ai appelé Claude et je lui ai dit non, il faut qu'on fasse passer l'homme en priorité. L'écologie humaine, c'est important. Et voilà, et on s'est lancé comme ça.
D'accord. Comment les écoutants se ressourcent-ils? Vous avez dit quand il y avait un accueil, un temps d'échange entre la personne accueillie et l'écoutant, il y avait d'autres personnes qui priaient. Comment toutes ces personnes, celles qui écoutent et celles qui prient, qui peuvent être interchangeables, voilà, on peut écouter à certains moments et puis prier à d'autres, comment elles se ressourcent?
Elle se ressource dans la prière, essentiellement. Enfin, il y a la première source, c'est la prière. Chaque écoutant adhère à une charte. Et dans la charte, il est demandé d'avoir une vie chrétienne, une vie axée sur, bien sûr, les sacrements, c'est-à-dire la communion, la confession tous les mois, la prière du chapelet, enfin, une dévotion mariale, l'adoration,
La messe, non?
Oui, la messe, bien sûr, la messe, et être suivi en même temps par un conseiller spirituel. Ce qui permet d'avoir aussi un suivi extérieur, qui n'est pas totalement dans l'association, mais en même temps qui nous guide, voilà.
Le but de ce conseiller spirituel, ce n'est pas d'effectuer une supervision. C'est pas son rôle.
Disons que le conseiller spirituel, comme dit son nom, il est là pour nous conseiller, pour nous guider. Et donc, il nous guide dans tous les actes de notre vie, y compris disons, nos actions dans le cadre des accueils Louis et Zélie. Quand je dis il nous guide, le conseiller spirituel ne donne pas de conseils, il écoute. Il écoute et il suscite chez la personne une réflexion. Voilà, donc c'est important de se poser et de réfléchir à ce qu'on fait, à prendre du recul, à prier avec le conseiller. Voilà. Et après, dans le groupe, on se retrouve tous les mois. Nous ne sommes pas isolés. Nous vivons comme une fraternité et nous prions. C'est la base, on doit prier et puis après échanger entre nous si on a eu des joies, des peines, sans parler forcément de détails de ce qui peut être dit, mais des difficultés qu'on a eues, voilà. Donc, et l'association, en plus, chaque association n'est pas seule. Il y a le réseau national qui nous retrouve en vidéo tous les mois. Alors, ça peut être c'est une vidéo où on partage, des informations sur les différents accueils, les difficultés qu'on a, les joies, etc. Et ça peut être aussi des vidéos formatrices où on accueille des formateurs comme Daniel Desbois qui est passé récemment.
Qui est psychothérapeute aussi.
Voilà, qui est psychothérapeute. D'ailleurs. Ça peut être des témoins, des personnes qui parlent de la résilience. Sans arrêt, on est suivi, on est formé.
C'est important parce que quand vous disiez au tout début de l'émission que vous accueilliez des personnes qui avaient des difficultés conjugales, professionnelles, des problèmes d'addiction, de solitude, etc. En fait, c'est un panel tellement large qu'il faut avoir cette formation, c'est important.
Tout à fait. Alors après, on est en rapport, ici à Toulouse, on a eu la joie d'être pris dans la pastorale familiale. Et donc, on est en rapport avec toutes les associations, puisqu'à Toulouse, on a énormément de chance, on a beaucoup d'associations qui aident les personnes. Et ces associations, le fait de se rencontrer, de les connaître, peuvent permettre en même temps, puisque nous, on fait écoute et accompagnement, d'accompagner la personne vers une association, par exemple, qui est spécialiste de soit de l'homosexualité, soit de la drogue,
des
addictions, voilà. Donc on ne garde pas pour nous. C'est une association, l'association Louis et Zélie, qui est ouverte sur les autres et qui a aussi besoin de la compétence des professionnels.
Mmh. Oui, on voit bien la force du réseau et tout le soutien dont vous bénéficiez. Oui. Claude Colomès, sur cette formation qui est indispensable, vous avez dit que vous appreniez à poser des questions, avoir ces pointeurs, comment vous dites ?
De précision.
Pointeurs de précision. Et vous apportez au fur et à mesure de l'année d'autres éléments pour les écoutants ?
Alors, à Toulouse, oui, puisque j'assiste en général aux réunions mensuelles, maintenant qu'ils vont se rapprocher à 3 semaines, parce qu'on ne se voit pas assez. Aïe. Donc, on va rapprocher les liens, on va resserrer les liens de la fraternité. Et donc, à Toulouse, oui, je peux, quand on fait, c'est une espèce de supervision. Alors, comme je suis la formatrice, ben oui, je mets mon grain de sel, c'est sûr. Mais par contre, dans les autres villes où j'ai formé les personnes, là, par exemple, j'ai été à Béziers la semaine dernière, j'avais formé le groupe il y a un mois et demi, il s'est constitué, j'ai assisté à une réunion. Et les gens se supervisent entre eux, en fait. Bon, là, pour l'instant, ils n'ont pas encore accueilli des personnes. Mais voilà, si chacun va dire, ben voilà, j'ai eu un problème avec ça, j'ai accompagné telle personne, mais à ce moment-là, je me suis sentie un peu fragile, ou ça m'a évoqué, ça m'a amené des émotions, parce que ça a touché à une de mes problématiques. Et là, les autres sont là, la supervision, c'est de l'auto-supervision de groupe, quoi. Et donc, les personnes sont amenées, pendant leur réunion fraternelle, à faire ce genre de se confier, quoi.
Donc, les accompagnants sont eux-mêmes accompagnés.
Ils s'auto-accompagnent.
Ils s'auto-accompagnent.
Si on peut dire ça comme ça.
Et c'est le sens de cette fraternité. C'est un peu comme une petite famille, en fait. Oui. Ces rencontres que vous passez entre écoutants, c'est important.
Oui, c'est important. Parce qu'on avait des réunions assez larges, c'était un mois et demi. Et puis là, on est en train vraiment de resserrer les liens fraternels. Parce qu'on pense que c'est l'essentiel, c'est pas de recevoir des personnes de l'extérieur. C'est déjà d'avoir, nous, notre noyau qui est priant, qui est aimant, qui est en attente de recevoir des personnes. Donc, on veut investir vraiment sur le groupe des écoutants. Et ensuite, on pense que ça va aspirer de l'extérieur vers l'intérieur des personnes qui auront besoin d'être accompagnées.
Mmh. Alors, nous le disions en introduction, hein, il y a de nombreuses antennes dans notre région. Et puis, prochainement à Auch, et vous parliez de Béziers, oui. Claude Colomès. Oui. Quels sont les autres projets pour faire connaître l'association et puis pour développer encore le groupe des écoutants?
Alors, sur la ville de Toulouse, actuellement, on est en contact avec la paroisse étudiante, car il y a aussi des besoins d'écoute parmi les étudiants. Et avec le père Damien, on essaie de voir si ce ne serait pas possible de monter un accueil, Louis et Zélie, spécial étudiant. Voilà, qui sera en rapport avec notre accueil Louis et Zélie actuel.
Et puis, vous serez au mythe pour le dimanche de Pentecôte.
Oui, on essaiera d'être au mythe pour le dimanche de Pentecôte, ce qui nous permettra de rencontrer de nombreuses personnes. Parce qu'en fait, les accueils actuellement se font connaître par des flyers, des affiches, mais il y a besoin encore de les faire connaître. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier de nous ouvrir l'antenne.
Donc ce sera une façon de vous faire connaître à tous les chrétiens du diocèse de Toulouse pour ce dimanche de Pentecôte à l'occasion des confirmations. Je vous remercie beaucoup. Alors peut-être pour contacter l'accueil Louis Ezeli, il faut le dire, pour prendre rendez-vous, accueil.louisezeli31@gmail.com avec un numéro de téléphone 07 66 43 92 81 07 66 43 92 81 et puis un site accueil Louis Ezeli où on voit toutes les antennes de France selon l'endroit où on se trouve.
Si vous oubliez le numéro de téléphone ou le mail, vous tapez sur internet écoute Louis Ezeli, vous avez le site national. Et là, il y a une carte de France. Vous cliquez sur Toulouse et vous aurez nos coordonnées.
Toulouse ou autre.
Ou autre.
Merci beaucoup, Daniel Ayoub. Merci, Claude Colomès. Et merci, Chantal Thomas.
Merci à vous.